Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.
Oh, Waviv, ravi de vous retrouver dans votre podcast After Galaxy. Merci d'être là, toujours plus nombreuses et plus nombreux à nous suivre. On compte sur vos likes, comme d'habitude, vos coms via vos applis. Avec aujourd'hui un épisode un peu différent des autres, un numéro exceptionnel qu'on vous propose avec un invité exceptionnel, auteur d'un geste exceptionnel.
Frasco Soari, é o gol, pode ser o gol, é o gol do gol. Mazzer, aos 32 minutos a marcar.
Mazzer de calcanhar, excelente, gol do Porto.
O Porto chega ao empate.
C'est l'homme qui a marqué d'une talonnade en finale de C1 1987 face au Bayern Munich. L'homme qui a par là même donné son nom à un geste technique. L'homme qui a remporté le Ballon d'Or africain en cette même année 1987 est avec nous dans ce podcast After Galaxy. C'est bien sûr Rabah Madjer. Salut Rabah, merci beaucoup d'être avec nous Rabah.
Bonjour Nicolas, bonjour aux auditeurs et merci pour cette invitation. Tout va bien, alhamdoulilah. Je suis au Qatar depuis quelques années. Je profite en famille, voilà.
Alors c'est la première question que j'allais te poser, Rabah. Qu'est-ce que tu deviens depuis toutes ces années? Alors on t'a quitté en tant qu'entraîneur, sélectionneur. Qu'est-ce que tu fais maintenant, Rabah?
Ben, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai entraîné au Qatar. J'étais consultant à Bein. À l'époque, c'était le Al Jazeera Sport et je suis l'un des fondateurs de cette chaîne. J'ai travaillé aussi en tant que consultant dans une autre chaîne qatari, Al Kass. Et voilà. Et parfois, je suis avec la CAF, avec la FIFA. Bon, j'ai fait un peu de tout, quoi.
Alors le geste qu'on a entendu il y a quelques instants à la radio portugaise, ce geste, cette talonnade en finale des Coupes des clubs champions face au Bayern fait partie de la légende, de ta légende. D'ailleurs, je vous invite à lire le MOOC de l'After avec un entretien de Rabah où tu y réponds en partie. Mais comment t'es venue cette inspiration, Rabah, à ce moment-là, en finale de C1?
Écoutez, on n'a pas le temps de réfléchir, hein. Surtout quand vous êtes dans une finale et pour la première fois, vous jouez une Coupe d'Europe des clubs champions. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, c'était un match plein, un match difficile, surtout pour nous, parce que c'était la première fois que l'Algérie, je pense à l'Algérie, que le FC Porto jouait une finale de Coupe d'Europe de club champion, et moi aussi, hein. Mais quand pour ceux qui jouent au football, ce sera facile de le comprendre. Des fois, quand tu es dans le cœur de l'action, il y a des gestes qui viennent spontanément. Dans ce cas précis, j'étais dos au but, les défenseurs se repliaient vite, donc pas beaucoup de temps pour faire un contrôle et me retourner pour frapper. C'était la meilleure solution, c'était la talonnade.
Alors, il y a beaucoup de commentateurs, hein, de supporters qui appellent Madjer dès lors qu'un but est marqué avec l'arrière du pied. C'est toi l'inventeur du geste finalement, du moins qui lui a donné le nom. C'est quoi une vraie Madjer, Rabah?
Ben écoutez, alors si on veut vraiment être puriste, je dirais il faut que ce soit avec le ballon et dos au but. Mais à chaque fois qu'un joueur marque avec un geste similaire et que j'entends à la Madjer, c'est une immense fierté. Donc, je suis inclus les variantes.
Ouais, ok. Donc, tu t'admets quand même, tu l'acceptes.
Ah oui, bien sûr, je l'accepte. Au contraire, ça me fait énormément plaisir.
Alors, on te reparle souvent de cette talonnade, moi le premier, la preuve. Mais au cours de cette finale de Coupe des clubs champions de 87, tu n'as pas seulement égalisé, tu as aussi et surtout été décisif sur le but vainqueur.
Celso levanta para o ataque à esquerda, Mazzer, minha gente, está sozinho, vai para a grande área, Mazzer, vai simular, outra finta, vai para a linha, o cruzamento, gol, gol, gol!
Alors le commentateur de l'époque est en extase, action formidable de Madjer, dit-il. Déjà, ça te fait quoi de réentendre ça, Rabah?
Voilà, j'ai la chair de poule, sincèrement, j'ai la chair de poule, c'est incroyable. Là, je reviens des années et des années, et je me souviens très très bien du deuxième but qui a marqué Juari et comment l'action a été préparée. Parce que je commence d'abord par le but que je marque, de la talonnade, c'était incroyable, c'était audacieux de ma part, et c'était vraiment la joie. Et tout le monde est venu vers moi, et ils ont sauté sur moi, j'ai eu une crampe au mollet. Je sors pour me soigner. Et puis après un petit massage au mollet, je demande à l'arbitre de rentrer. Je rentre et je vois Celso avec le ballon, l'arrière central. Et moi, j'étais sans surveillance. J'ai demandé à Celso de me donner le ballon, une longue passe. Je contrôle le ballon et je vais vers le défenseur droit. Je ne sais pas comment je lui ai fait un dribble et puis après un centre millimétré du pied gauche sur le pied de Jouari qui était vraiment dans une position magnifique. Il met le deuxième but. Vraiment, c'était une action extraordinaire. Moi, je pense que cette action aussi, elle est meilleure que la talonnade.
C'est vrai qu'elle est magnifique. D'ailleurs, le commentateur est vraiment en extase, encore une fois, devant cette action. Alors, il y a aussi un aspect qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, il n'y a que deux remplacements qui sont autorisés par match. Et finalement, cette action, elle arrive au moment où les deux remplacements sont effectués par Arthur Georges, qui était l'entraîneur de l'époque. On va y revenir. Est-ce que tu ne te sentais pas plus libéré, justement, finalement? On en a déjà parlé tous les deux de ça. D'ailleurs, tu t'es dit, t'as attendu finalement les changements d'Arthur Georges pour oser faire cette action-là, quelque part?
Ben, sincèrement, parce que, bon, c'est vrai qu'une finale qui n'est pas comme les autres, hein, une finale de Champions League, ou plutôt de Coupe d'Europe des clubs champions, pour la première fois, on joue contre le Bayern. C'est tout le contraire pour le Bayern qui a de l'expérience, qui a déjà gagné auparavant cette Coupe. Avec nous, je pense que Arthur Georges, à cette époque-là, il avait peur. Tout comme nous, hein, il avait peur du Bayern. On a joué beaucoup de joueurs au milieu de terrain avec André, avec Pacheco, avec Souza, moi aussi au milieu de terrain, alors que ce n'est pas mon poste. On a plus pensé à défendre, à fermer les espaces, que d'aller vers l'avant et marquer des buts. Et puis après, quand Arthur Georges a commencé à faire des changements, il a fait sortir deux joueurs, il fait rentrer deux joueurs, en deuxième mi-temps surtout, je me suis libéré. Je me suis libéré parce que j'avais peur. Si je vais vers l'avant, peut-être que Arthur Georges, il me fait sortir, parce que je n'ai pas accepté ses consignes. Et en deuxième mi-temps, j'ai pris la décision d'aller devant. Parce que Foutré, il était seul devant. Et il a fait du bon travail, mais malheureusement, à chaque fois, il y a quand même une bonne défense du Bayern. Et quand je suis allé un petit peu vers l'avant pour aider Foutré, nous avons commencé à menacer la défense du Bayern. J'ai commencé par un tir du pied gauche au-dessus de la barre transversale. J'ai fait aussi, Foutré aussi qui était à la droite. Il dribble deux joueurs, il me fait une passe et elle passe juste à côté. Je pouvais marquer ce but. Et jusqu'au moment où Frasco, qui est rentré en deuxième mi-temps, il donne une passe à Jouari sur le côté droit. Jouari, il fait le centre, mais il rate le centre. Son centre, il le rate. Et moi, je suis allé très vite vers le poteau droit pour essayer de marquer le but. Et puis après, le ballon, il a changé de trajectoire. J'ai laissé passer le ballon entre mes jambes et j'ai pris l'initiative de talonner le ballon et marquer. Parce que c'était la seule façon de marquer le but, parce qu'il y avait un défenseur du Bayern qui était sur la ligne des buts. Et il y a aussi Pfaff aussi. Si j'ai pensé à contrôler le ballon, le défenseur, il vient vers moi. Et Pfaff, il revient dans ses buts. Et là, je ne sais pas si j'allais marquer le but. Je pense que j'ai bien fait de faire la talonnade. Et j'ai marqué le but, c'était extraordinaire.
Alors, tu as prononcé le nom d'un joueur qui est un joueur qui était voué à une carrière encore plus exceptionnelle qu'il l'a eu, mais c'est Paulo Futre, qui était l'un des grands talents, l'un des grands espoirs du football portugais. Alors, il n'est pas très connu en France, bien qu'il ait connu un passage assez court, assez bref, du côté de l'Olympique de Marseille. C'est une personnalité, un personnage et un joueur complètement dingue, Paulo Futre. Toi, tu le connais bien, tu as joué avec, Rabin.
Ah, bien sûr. Non seulement je l'ai connu, mais c'est mon ami aussi. Et comme footballeur, c'est un génie. C'est vraiment un génie. Quand je suis arrivé à Porto et je le voyais, qu'est-ce qu'il faisait à l'entraînement et durant les matchs, je me disais, mais c'est incroyable ce joueur. Il sait tout faire avec le ballon. Si Foutre avait joué, aujourd'hui, ça aurait été une superstar. Autant pour le joueur que pour l'homme. Les jeunes connaissent Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, c'est normal. Mais Foutre avait la même capacité à prendre de la vitesse et dribbler 3 ou 4 joueurs d'affilée. À l'époque, on parle d'un jeune de 19 ans et des défenseurs qui taclaient très dur. C'était un plaisir de le voir jouer, sincèrement. C'était un grand joueur, foutré.
Et pourquoi, d'après toi, il n'est pas arrivé au niveau justement d'un Cristiano Ronaldo? Alors, qu'est-ce qu'il a manqué?
Bah, écoutez, beaucoup de choses ont changé depuis. Hein.
Ouais.
Beaucoup de choses. Foutré, bon, c'est vrai, à l'époque, il avait 19 ans. Il a joué à Porto, puis il est parti
à l'Atlético.
À l'Atlético Madrid. Il a fait de très, très bonnes choses à l'Atlético Madrid. Ronaldo, il a joué aussi dans un grand club à Manchester United. À cette époque, Manchester United était au sommet.
Ouais.
Ils ont fait de Cristiano Ronaldo ce qu'il est maintenant aussi, il faut dire la vérité. Hein. Ce qu'il est maintenant, parce qu'il avait aussi la possibilité, la chance de jouer à Manchester United. Puis après, il est allé au Real Madrid. Hein. C'est automatiquement, quand vous jouez au Real Madrid, vous deviendrez le meilleur joueur du monde. Hein. Ça, c'est clair. On a vu aussi avec Barcelone. Mais c'est dommage. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est Foutré joue à cette époque, c'est une superstar, il sera le meilleur joueur de tous les temps.
Alors,
c'est un grand footballeur.
En cette année 87, donc en Porto gagne la Coupe des clubs champions, Gullit est élu Ballon d'Or, Paulo Foutré termine deuxième. Le Ballon d'Or à cette époque n'est pas attribuable aux noms européens, il l'est que depuis 95. Est-ce que tu penses que si le Ballon d'Or 87 avait été ouvert à tous, c'est-à-dire à toutes les nationalités, tu l'aurais eu et tu l'aurais mérité finalement, Rabat?
Ben écoutez, il faut rester modeste quand même. Hein. Il faut rester modeste. Je pense que j'aurais été un bon candidat pour le titre, vu ma saison avec Porto. On gagne le championnat, la Coupe du Portugal. Je marque en finale de la Coupe d'Europe et de la Coupe intercontinentale. C'est la Coupe du monde de club de l'époque. Mais Paulo Foutré fait la même saison, exceptionnelle. Je me dis que lui aussi aurait dû finir premier, mais ça reste un choix légitime de prendre Gullit, c'est une légende aussi. C'est une très belle saison où les trois, on a montré de belles choses. Mais il y a un seul titre, malheureusement.
Et alors ce but, ton but en finale de C1-87, a aussi beaucoup marqué un autre futur entraîneur qui sera champion d'Europe avec les Dragons. Très court extrait d'une interview de José Mourinho à Al Jazeera en 2010 qui parle ainsi de toi, Rabat.
Et c'est magique. Il était un magic player.
Et voilà, tu étais un joueur magique, a déclaré José Mourinho, qui t'avait vu, quand il était jeune, marquer ce but face au Bayern Munich. Mourinho, qui est aujourd'hui entraîneur à la Roma après une expérience compliquée à Tottenham. Est-ce que, selon toi, il fait toujours partie des grands entraîneurs, des plus grands entraîneurs du monde, selon toi, aujourd'hui, Rabat?
Ah oui, absolument. Absolument. Moi, je pense que Mourinho, quand même, il a ouvert les portes à tous les entraîneurs portugais. Maintenant, on s'intéresse beaucoup aux entraîneurs portugais parce que, quand même, ce qu'il a fait, Mourinho, à Porto d'abord, puis aussi à Chelsea, quand même, il est passé par des grands clubs où il a laissé ses empreintes. Et Mourinho restera toujours un grand entraîneur qui a tout gagné, avec l'Inter aussi. C'est vraiment formidable ce qu'il fait et je lui souhaite beaucoup de courage aussi avec la Roma. On le verra peut-être avec un autre club où il peut aller gagner aussi des titres. Il est passé aussi par le Real Madrid, mais ça reste quand même Mourinho, un grand monsieur du football.
Alors justement, peut-être qu'on le verra dans un autre club. Il y a un club où il a souvent été annoncé ces dernières années, c'est le Paris Saint-Germain. On parle depuis l'élimination du PSG, notamment en Ligue des Champions face au Real Madrid, de l'après Pochettino. On parle de lui, on parle de Zidane. D'après toi, le PSG a besoin de quel type d'entraîneur pour la remporter enfin cette Ligue des Champions? D'un Mourinho, d'un Zidane, d'un autre finalement?
Écoutez, moi je pense, ce qui manque actuellement au PSG, je pense que c'est la stabilité, parce qu'il y a beaucoup de changements. Le changement des entraîneurs, le changement des joueurs. Je pense que si on veut réussir quand même, il faut garder une équipe homogène avec un entraîneur qui comprend les joueurs. Et parce que tous les moyens existent au PSG. Actuellement, sur le papier, nous avons la meilleure équipe du monde. Avec Neymar, avec Messi, avec Di Maria, avec Mbappé. Mais tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe au PSG? Et on a vu le dernier match contre le Real Madrid, vraiment on n'a pas reconnu le PSG. C'est malheureux.
Alors tu vis entre l'Algérie et le Qatar, comment cette élimination du PSG en 8e de finale de Ligue des Champions a été vécue à Doha justement?
Ben ils n'étaient pas contents, ça c'est clair. Hein, avec tous les moyens que les responsables de Qatar ont mis à la disposition du PSG, Ils attendaient mieux. Et nous aussi, en tant que ressortissants ici au Qatar, on s'attendait vraiment à un bon résultat du PSG parce que, comme je venais de vous le dire, rien ne manque au PSG. Ils ont la meilleure équipe. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, contre le Real Madrid, tout le monde se pose la question. C'est dommage parce que là, on attend la saison prochaine. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne sait pas. De toute façon, le PSG, quand même, c'est un grand club. Ils vont corriger toutes les erreurs qu'ils ont faites contre le Real Madrid. Bon, on verra qu'est-ce que ça va. Est-ce que ça va changer pour l'année prochaine ?
Alors, restons à Paris, une ville que tu as bien connue, puisqu'avant de devenir une légende au Portugal, tu as joué deux saisons en France, et notamment au Racing Club de Paris.
Sur contre-attaque, amorcée par Mahu. Avec un centre de Londres, Madjer de la tête réduira la marque à 4-5 minutes de la mi-temps.
Alors, tu as connu une montée en division avec le Racing, un passage par tour également. Alors, ce que peu de gens savent, Rabat, c'est qu'avant de signer au Racing, tu étais tout proche de signer avec le Paris Saint-Germain.
Eh ben oui, tout à fait, cher ami. Là, tu me fais rappeler les meilleurs moments. Hein. Oui, effectivement, mon ami. Effectivement, tout le monde le sait parce que j'en parle pas beaucoup. C'est vrai, juste après le mondial 82 en Espagne, j'ai eu un coup de fil de Monsieur Borrelli, à l'époque président du PSG. Il a parlé avec moi et il m'a dit qu'il était très intéressé par mes services. Et on a discuté un petit peu. Bon, je l'ai invité à Alger. Il est venu à Alger. Attendu à l'aéroport, on est allé à l'hôtel, on a bien discuté ensemble et on a pris rendez-vous avec les responsables de la Fédération algérienne de football, avec le président Kézal, le regretté Kézal, avec les autres responsables. Et malheureusement, c'est-à-dire que les négociations n'ont pas abouti, parce qu'à l'époque, le Paris Saint-Germain n'a pas donné ce que je méritais à l'époque. C'est dommage, parce que moi, j'en ai pas fait une affaire d'argent. Moi, je voulais jouer au PSG quand même, c'était un grand club, le PSG. Mais malheureusement, les contacts sont tombés à l'eau, et voilà, je ne suis pas parti au PSG.
Et quel souvenir tu gardes finalement de ton passage en France ? Pourquoi ça n'a pas pris plus que ça finalement ? Ça n'a pas pris l'ampleur que tu as pu avoir à Porto par exemple ?
Ben écoutez, je suis resté 2 années au Racing de Paris avant de signer au Racing Club de Paris. J'avais la possibilité de jouer à Saint-Étienne parce qu'il y avait la concurrence entre Saint-Étienne et le Racing de Paris. Il y avait le Racing Club de Paris qui est venu à Alger avec M. Guyot. On négociait avec la fédération quand le Racing partait en France. Et à Saint-Étienne, le président André qui est venu à Alger pour négocier. Et finalement, j'ai opté pour le Racing Club de Paris. J'ai joué 2 années. Je pense que, honnêtement, ça a été un bon tremplin. Je participe à la montée en première division. Et l'année suivante, je suis capitaine d'équipe. Ça m'a permis de me faire connaître un peu plus en dehors des compétitions africaines. Et c'est là que Porto vient me chercher. On a passé, on n'a pas été assez bon en D1, mais il aurait fallu renforcer un peu l'équipe du Racing pour l'été en première division. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'ai quitté le Racing après passer 2 années et je suis parti au FC Porto.
On repart au Portugal avec un peu d'actu lié à la Seleção. Le 24 mars prochain, le Portugal affronte la Turquie en match de barrage pour la Coupe du Monde 2022. Un Portugal qui a laissé fuir la qualification directe dans les tout derniers instants du dernier match de la phase de groupe face à la Serbie.
Olha, Tadic, canto estudado, bola batida, segundo poste, cabeceamento, gol! Não, não! Não, 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 não! Minuto 90! Cabeceamento ao segundo poste, salta a tampa a tudo que é sérvio em Lisboa!
Voilà, alors autant le commentateur portugais était en extase après la talonnade de Madjer, autant celui-là, forcément, il était un peu dégoûté après le but dans les derniers instants de Tadic. Alors si le Portugal s'impose face à la Turquie le 24 mars, il devra s'imposer face au vainqueur de la rencontre Italie-Macédoine du Nord pour espérer aller au Mondial au Qatar. Le dernier tournoi majeur manqué par le Portugal, c'est le Mondial 98 en France. Est-ce que, Rabat Madjer, tu imagines une Coupe du Monde 2022 sans le Portugal ?
Non, j'imagine pas, non, non. Non, non, je suis sûr et certain que le Portugal dira son dernier mot et nous sommes là pour les encourager parce que quand même le Portugal, c'est une grande équipe avec de grandes stars et à leur tête Ronaldo. Ce mondial, c'est aussi potentiellement le dernier de Ronaldo et Messi. Nous, en tant qu'amateurs de football, on a envie de voir le Portugal et l'Argentine, par exemple, compétitifs pour voir ces deux légendes se lancer dans un dernier challenge pour le titre qui leur manque à tous les deux. Ce sera la fin d'une époque, mais je souhaiterais la qualification du Portugal. Parce qu'on sera aussi la qualification de mon pays, l'Algérie aussi. Parce que là, je suis au Qatar, je vais au Qatar. Je souhaiterais supporter le Portugal ici. Et bien sûr, mon pays ici, s'ils sont qualifiés pour le Mondial. Et bien sûr, le Qatar, là où je vis.
Alors justement, il y a beaucoup de débats, tu as prononcé son nom en ce moment autour de Cristiano Ronaldo. C'est vrai que bah forcément, un lâche passe également concernant CR7. Est-ce que tu trouves toi aussi qu'il conditionne le jeu du Portugal, puisqu'on parle de la sélection? Est-ce que tu trouves que l'âge commence à peser? Et toi qui as été entraîneur aussi, comment on gère un joueur comme Ronaldo? Est-ce qu'on doit le laisser au repos? Est-ce qu'il faut le mettre de côté? Est-ce que pour toi c'est un problème finalement Cristiano Ronaldo aujourd'hui pour le Portugal?
Bah, pour moi, c'est pas un problème. Vous savez, dans la vie, il faut pas être ingrat. Il faut être reconnaissant. Et tout le monde sait ce qu'a donné Ronaldo à l'équipe du Portugal. Et je pense que ce sera son dernier mondial et je lui souhaite de se qualifier pour ce mondial au Qatar. Il a beaucoup donné au football, il a beaucoup donné à son pays qui est le Portugal. Et je pense que la présence de Ronaldo, quand même, elle est indispensable au niveau de l'équipe nationale du Portugal. Il y a une bonne entente entre les joueurs, c'est une équipe remplie de stars. Et je pense que Ronaldo peut donner encore davantage et il peut aider aussi cette équipe du Portugal ici au Qatar si l'équipe du Portugal est qualifiée.
Alors tu faisais allusion hein, il y a quelques instants, en zone Afrique aussi les barrages s'annoncent intéressants avec notamment les 25 et 29 mars un barrage entre le Cameroun et l'Algérie. Les Verts vont donc retrouver le pays des Lions Indomptables, organisateur de la dernière CAN. Un mauvais souvenir pour les Algériens sortis dès la phase de groupe.
Et c'est terminé! C'est terminé, la CAN prend parfois des allures de traquenard. Et bien le piège s'est refermé sur l'Algérie. Le champion d'Afrique est éliminé, largement dominé par la Côte d'Ivoire 4-1. Les Algériens sortent dès la phase de groupe, comme en 2017 et 2013, après trois matchs sans le moindre succès. Voilà la première sensation, oui la première de cette CAN 2021.
Voilà, extrait Beansport hein, de cette élimination de la CAN de l'Algérie lors de la dernière CAN, qui va donc retrouver le Cameroun. Est-ce que tu es inquiet, Rabat, pour l'Algérie en vue de ses qualifications pour le Mondial?
Ben écoutez, inquiet, je ne sais pas, parce que dans le football, tout est possible. Hein. Tout est possible. Notre équipe nationale, c'est vrai que on n'a rien compris lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Notre équipe nationale, détentrice de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, sort le premier tour au Cameroun. Tout le monde se posait des questions. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais là, je pense que contre le Cameroun, il faut que notre équipe nationale rentre déterminée au Cameroun, parce que une qualification se joue au Cameroun, pas en Algérie. Se joue au Cameroun. Il faut que notre équipe nationale donne le meilleur d'elle-même, surtout sur sur le plan physique, parce que le Cameroun, comme à mon avis, cette équipe du Cameroun, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, physiquement, ils sont très bons. Et bien sûr, ils ont des joueurs qui sont très efficaces, à leur tête, Boubacar. Je pense que l'Algérie, il faut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes au match aller. Ici, au Cameroun. Et puis après, on fera le nécessaire, ce que nous avons à faire en Algérie. Parce qu'une qualification de l'Algérie au Mondial 2022 ici au Qatar. Tout le monde attend cette qualification et je souhaite bonne chance à notre équipe nationale.
Alors, juste avant la CAN, le président de la CAF, hein, Patrice Motsepe, avait déclaré à des journalistes présents au Cameroun, je cite, « L'Algérie doit gagner la Coupe du Monde. L'Algérie est l'une des nations africaines qui peut nous rendre fiers. » Est-ce que tu trouves que c'est réalisable, que les paroles de Motsepe sont finalement lucides?
Ben écoutez, je ne sais pas quoi vous répondre. Je pense que les temps ont changé. Hein. Les sélections africaines peuvent maintenant rivaliser sur la scène internationale. On a le talent, on a le talent pour. Les fédérations se sont développées pour accompagner les joueurs. L'écart se réduit, ce n'est qu'une question de temps avant que la Coupe du Monde soit africaine. Tout est possible parce que l'Algérie, c'est vrai que on est passé à côté lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais il y a eu beaucoup de facteurs négatifs pour notre équipe nationale, et il faut le dire. Mais je pense en Coupe du Monde, si on est qualifié, l'Algérie peut montrer un autre visage, et comme on l'a toujours montré. Je pense que la dernière Coupe d'Afrique des Nations, je pense que c'était un accident de parcours pour notre équipe nationale.
Jamel Belmadi avait succédé au poste de sélectionneur en 2018 après un amical et une défaite de l'Algérie face au Portugal. Et en conférence de presse d'avance Portugal-Algérie, le climat était déjà assez tendu et tu avais eu des mots très forts.
Parce que je suis victime d'une machination. Je m'adresse à vous, les journalistes portugais. Vous trouvez que c'est normal? Est-ce que ça existe chez vous? Un entraîneur qui perd un match contre une équipe africaine, match amical, on décide de le virer, on décide de le limoger de son poste, alors que je n'ai même pas joué un match officiel. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, ça?
Alors, je vais être honnête et transparent avec nos auditeurs. En préparant ce podcast, on a échangé sur ton expérience en tant que sélectionneur de l'équipe nationale. Rabat, je sais que c'est une cicatrice qui est encore ouverte chez toi.
Ben, écoutez, sincèrement, je n'ai pas envie de parler de tout ça. L'équipe nationale a existé avant moi et elle existera après moi. Le plus important, c'est que notre football se porte bien. Maintenant, je n'ai pas envie de retourner sur le passé.
D'accord. Est-ce que tu as toujours envie d'entraîner, cela dit, Rabat? Pas forcément l'équipe nationale,
ben oui,
hein, mais...
pourquoi pas. Ben, ouais. Ben écoutez, moi je suis toujours prêt à entraîner. C'est vrai qu'il y a quelques mois, j'ai reçu des... comment dirais-je,
des propositions,
des coups de fil pour entraîner, même en Afrique, des sélections en Afrique. Mais sincèrement, je n'étais pas encore prêt. Même si je reçois beaucoup d'offres, mais j'ai le luxe, grâce à Dieu, de pouvoir les refuser. L'envie de rester proche des terrains est là, mais il faut que le projet me convienne.
Alors, tu as connu plusieurs passages en tant que sélectionneur de l'Algérie. C'est notamment toi qui dirigeais l'équipe nationale en ce jour d'octobre 2001. L'Algérie affronte les Bleus au Stade de France. Elle est menée 4-1 dans ce match amical. Mais à un quart d'heure de la fin, des supporters pénètrent sur la pelouse du Stade de France.
Et le match est évidemment arrêté.
Oui, bien sûr.
Et l'arbitre va renvoyer les joueurs très certainement au vestiaire.
Il y a envahissement du terrain. Voilà ce que bon. Et le match est fini, là.
Oui, voilà, je crois que le match est terminé.
Très certainement terminé.
Tout le monde rentre au vestiaire, les joueurs français, les joueurs algériens.
Alors Rabat, comment t'as perçu ces événements à l'époque et surtout aujourd'hui avec le recul, quel souvenir tu en gardes de ce France-Algérie qui était historique en plus, hein?
Ben écoutez, il faudrait qu'il y ait une chose. Je pense que ce qui s'est passé lors du match Algérie-France à Paris... je pense que le public, plutôt les Algériens, quand ils sont rentrés sur le terrain, c'est pour exprimer leur joie et pas leur colère. Parce qu'ils étaient tellement contents et heureux de voir cette équipe nationale jouer en France contre l'équipe de France. On a vu même des Algériens qui prenaient des morceaux de gazon pour qu'ils les gardent en souvenir. Mais il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu rien du tout. Moi, je pense que le public, quand il est rentré, c'est plus pour exprimer, si vous voulez, sa joie. Mais on aurait aimé terminer le match, mais enfin, ça reste toujours un bon souvenir pour nous.
Et alors, ça fait des années hein, que le projet d'un France-Algérie est en discussion pour que le match se rejoue finalement. Toi, t'aimerais, j'imagine aussi, qu'il se rejoue. Est-ce que t'aimerais qu'il se joue en France, en Algérie, peu importe?
Ben, en France ou en Algérie, je pense que si ça se concrétise, ce sera plutôt un match d'amitié. Hein. C'est un match d'amitié entre les deux pays et ça fera plaisir à nous, ça fera plaisir aux Algériens qui sont en France. Et je pense que, bon, on verra. Hein. Peut-être cette fois-ci, le match se jouera en Algérie. Hein. On va voir, au stade du Saint-Juillet, hein. C'est un assez beau stade. Ben on verra d'ici là. Moi je suis pour. Je suis pour un match amical qu'on appellera un match de l'amitié.
On évoquait ton passé de joueur il y a quelques instants, Rabat. Tu as représenté l'Algérie à plusieurs reprises en Coupe du Monde. Et en 1982, tu as été l'un des héros d'un match historique face à la RFA.
Yeah.
L'Algérie allait s'imposer 2-1 face à la RFA, mais n'allait pas se qualifier pour le tour suivant. La faute à un dernier match de groupe arrangé entre l'Allemagne et l'Autriche. Ça va faire 40 ans en juin prochain que ce match s'est joué entre l'Allemagne et l'Autriche. Rabat, est-ce que tu leur en veux toujours ?
Ben, écoutez, on vit avec, hein. On vit avec. Je pense que je leur en veux pas. Ça appartient au passé et à l'histoire. Mais ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal.
Alors Karl-Heinz Forster, hein, qui était l'un des cadres de la RFA de cette équipe de l'époque, a déclaré dans une interview au Parisien en 2014 « Si je croisais Rabah Madjer, je lui présenterais mes excuses et je lui dirais que ce que nous avions fait à l'époque n'avait pas été correct. » Qu'est-ce que tu as envie de répondre à Forster ? Est-ce que tu acceptes ses excuses, Rabah ?
Ben écoutez, il n'y a pas que Forster qui a demandé des excuses. Il y a beaucoup de joueurs, Bregel, le gardien Schumacher. Il y a beaucoup de joueurs qui ont demandé des excuses. Et moi, tout ce que je peux vous dire, le fait qu'ils reconnaissent leur faute, oui, j'accepte ces excuses. Mais ça n'engage que moi.
Est-ce que c'est le pire souvenir de ta carrière, finalement, ce fameux Allemagne-Autriche ?
Ben écoutez, c'est vrai, on avait la possibilité de passer au deuxième tour parce qu'on avait quand même une très bonne équipe qui méritait de passer au deuxième tour. Mais là, quand vous voyez ce qui s'est passé entre les deux grandes nations du football, qui est l'Allemagne et l'Autriche, là, vous êtes vraiment, c'est triste. C'est triste parce qu'ils ne nous ont pas donné la possibilité de passer au deuxième tour. Parce que si on était passé au deuxième tour, l'Algérie pouvait faire mal. Parce qu'on a montré quand même de réelles possibilités contre l'équipe d'Allemagne et on pouvait aller très loin. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Mais depuis, la FIFA a changé tous les règlements et les lois aussi pour ne plus qu'à l'avenir, c'est-à-dire on ne vit plus de ces choses-là.
Oui. Parce qu'on rappelle, en fait, ce qui se passait, c'est que l'Algérie a joué avant finalement l'Allemagne et l'Autriche et du coup, les Allemands et les Autrichiens savaient quel résultat pouvait arranger les deux équipes pour se qualifier et ce qui s'est passé.
Tout à fait.
Et alors, juste, Rabah, finalement, on arrive à la fin de ce podcast, c'est quoi le plus beau souvenir de ta carrière, Rabah ? De quoi tu es le plus fier, finalement ?
Le plus beau souvenir... Ben écoutez, j'ai beaucoup de bons souvenirs, hein. Moi, je pense que d'abord d'avoir réussi ma carrière de footballeur et laisser cet héritage à mes enfants et à mes petits-enfants.
Eh ben, merci beaucoup, Rabah. Tiens, Rabah, si tu le sais, il y a une immense communauté algérienne également en France, Rabah. Est-ce que tu as un message à adresser aux Algériens ? On va fêter les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie.
Eh ben, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Je ne sais pas quoi dire. Hein. Je ne sais pas quoi dire. Bon, c'est-à-dire que nous avons toujours dans la tête tout ce qui s'est passé il y a quelques années. Hein. Et là, c'est la fête, 60 ans d'indépendance. Je leur dis bonne fête à tous les Algériens qui sont dans le monde entier. Et spécialement ceux qui sont en France, qui vivent en France, bonne fête et bon courage pour tout le monde.
Merci beaucoup, Rabah, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour ta disponibilité, Rabah Madjer. Ça a été un plaisir de t'avoir dans ce podcast After Galaxy. Merci à Kenny Vaugelin, la réalisation. Merci Jérôme Thomas et Arthur Robert à la production. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de suivre le podcast After Galaxy, de le liker, de le commenter. Et puis la tradition dans le podcast After Galaxy, c'est de se dire au revoir en musique. Il s'appelle Cisaille. Son titre s'intitule Madjer. On se quitte donc.
Avec une Madjer. Avec une Madjer. Avec une Madjer. Ne crois pas qu'on stallonne. Le but va être atteint avec une matière, dis-moi qu'est-ce que tu vas faire. Avec une matière, S, le I, le Z.
RMC, After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.